Après autant de temps et de multiples changements politiques, les cousins ont des choses à se dire. Mais très vite, la conversation arrive sur les achats de Joseph, pressé de mettre ses yaourts au frais.
Transmission.
Histoire courte de Bruno Manuel. Épisode 28. La Polski rouge, élue par Michel Nabokov.
Le froid est tenace et mordant en ce matin de février 1990, quand Joseph quitte Cracovie au volant de sa magnifique Polski 125 rouge. Il fait encore nuit quand il arrive à Mikulov et il est inquiet. Le calme de la route l'inquiète. La traversée de la République fédérale tchécoslovaque est réputée difficile. Lorsque l'on s'approche de ce qui deviendra plus tard la frontière entre la Tchéquie et la Slovaquie, il est habituel de rencontrer des véhicules de police, des convois militaires même, qui patrouillent lentement avec des blindés équipés de puissants projecteurs. Cette nuit-là, il n'y a ni contrôle, ni barrage de police, ni même longue file de poids lourds enveloppés dans la brume. Joseph profite d'être encore dans un pays communiste pour faire le plein de carburant à un prix dérisoire. Le poste de douane est visible à des centaines de mètres. C'est une oasis de lumière au milieu de la nuit noire. Les douaniers se contentent d'un simple contrôle des papiers et laissent passer la Polski 125. La barrière rouge et blanche, une fois levée, Joseph laisse éclater sa joie. Il est en Autriche, libre, dans un pays qui sera bientôt membre de la communauté européenne. En Pologne, les médias d'État en disaient le plus grand mal, le présentant comme une terre de débauche où le capitalisme réduisait de pauvres citoyens à la misère sociale. Mais il en avait aussi entendu souvent parler par ses grands-parents, qui avaient des souvenirs émus de vacances au ski dans le Tyrol avant-guerre. Classique contradiction en Europe centrale à cette époque, entre mépris et fascination. Il roule maintenant au creux d'une vallée dominée par des hauts sommets encore dans l'ombre. Partout, des chalets de bois laissent échapper de leurs cheminées de grands panaches blancs. Il s'arrête au bord de la route pour se servir un café, conservé bien au chaud dans une grande gourde isolante en admirant les premiers rayons de soleil sur les crêtes enneigées. Ensuite, il jette un coup d'œil à sa carte routière et reprend la direction du sud. Après l'Autriche, il arrivera en Italie. En effet, des cousins, installés à Milan, l'ont invité lorsqu'ils ont appris que les frontières étaient ouvertes et que les citoyens polonais retrouvaient la liberté de circuler. Le soleil est déjà bien haut dans le ciel et il lui semble que l'hiver n'a pas franchi la frontière. Il change d'abord un peu d'argent dans une agence de la Banca Monte dei Paschi di Siena, puis sa curiosité l'entraîne dans un magasin Coop. Il est rassuré par l'enseigne qui lui rappelle les coopératives polonaises. Mais à l'intérieur pourtant, il est abasourdi par les lumières vives, la musique et la profusion de produits plus colorés les uns que les autres qui remplissent les étagères. Il tombe littéralement en arrêt devant le rayon des yaourts. Il en achète plus de 40. Il va rapidement les ranger dans son coffre. Joseph est fasciné. Cette découverte lui confirme que le monde capitaliste est plein de ressources. Il se dit qu'il a vraiment eu beaucoup de chance de trouver autant de yaourts le même jour. La route se poursuit dans une sorte d'allégresse. Au détour d'un virage, à la sortie de Vérone, il aperçoit un magasin de matériaux de construction. L'ambiance est nettement plus austère qu'au Coop, mais il lui semble qu'on pourrait trouver là de quoi construire plusieurs maisons entièrement. Il découvre une étagère où s'entassent des dizaines de pots de peinture de 5 litres, exactement de la couleur dont il rêve pour repeindre son appartement. Il en achète 12. Il les cale comme il peut dans le coffre ou aux places arrière de la Polski. Quelle satisfaction! Il reprend ensuite la route pour les 150 km qui le séparent encore de sa destination. Une fois arrivé, les retrouvailles sont chaleureuses. Après autant de temps et de multiples changements politiques, les cousins ont des choses à se dire. Mais très vite, la conversation arrive sur les achats de Joseph, pressé de mettre ses yaourts au frais. « Mais qu'est-ce que tu fais avec autant de yaourts dans ta voiture ?»« Il y a rarement des yaourts. Quand on en trouve, il faut les prendre, » répond Joseph. « C'est encore comme ça, Cracovie. Pour la peinture, c'est pareil. » « Oui, mais ici, il y a tout, tous les jours. Ne t'inquiète pas. On va conserver au frais tes pots de yaourt et tu pourras en manger autant que tu veux. Mais il me semble que sur les photos que ton père m'avait envoyées, ta Polski était beige. Tu en as une nouvelle ?»« Oui, tu as raison. C'est une longue histoire. Ma voiture était vieille et en très mauvais état. Je ne trouvais plus de pièces pour la réparer. » Les sièges étaient défoncés, les soufflets des leviers de vitesse étaient cuits, les pare-chocs avaient été ressoudés deux ou trois fois, l'électricité était très fantaisiste. Bref, il fallait agir. J'ai donc décidé de partir en URSS, sous prétexte de faire une sorte de pèlerinage patriotique jusqu'à Odessa. Pour y admirer l'escalier du Potemkin, symbole, s'il en est, de la puissance impériale communiste. Dans la première auberge où je m'y suis arrêté, j'ai demandé où je pouvais acheter des diamants. On m'a très gentiment renseigné. J'ai renouvelé l'opération à chacune de mes étapes, à l'aller et au retour. Partout, de bons camarades étaient tous disposés à m'aider, en me proposant parfois des affaires vraiment alléchantes. On aurait dit que le pays entier était devenu un coffre géant, rempli de pierres précieuses. On fait des belles rencontres quand on promet de l'argent, surtout dans un pays communiste où on manque de tout. Ce voyage fut formidable. On me régala de borscht, de pampushki, de palyanistra, de galushki, de panouch, de... bref, de tout. Au moment de rentrer, j'étais totalement rassasié et préparé pour l'aventure qui allait suivre. Car pour sortir du RSS et rentrer en Pologne, j'avais choisi le grand poste de douane de Krakowice. Dès que le douanier a vu mes papiers, il a brandi son arme et m'a ordonné de sortir du véhicule. Puis il a appelé son chef qui m'a demandé ce que j'avais à déclarer. J'ai répondu que je ne transportais rien de particulier, que je rentrais chez moi après un périple culturel et patriotique qui m'avait conduit jusqu'aux rives de la mer Noire. On m'a alors enfermé dans un petit bureau glacial et on a commencé à hurler en me disant que j'étais un menteur, qu'il savait que j'étais un trafiquant de diamants, que de toute façon, ils allaient démonter totalement toute ma voiture pour y trouver jusqu'à la moindre petite poussière de diamants que j'y cachais. Il ajouta même qu'il était plus raisonnable d'avouer. Je me suis obstiné à leur dire qu'ils ne trouveraient rien, puisqu'il n'y avait rien. Le chef du poste m'a calmement expliqué qu'il avait des dizaines de témoignages de mon trafic, qu'ils avaient tout le temps nécessaire devant eux et que j'allais passer un sale quart d'heure. Il me menaça même de ne jamais rentrer en Pologne. Je pense que mon calme les avait enragés. Ils m'ont bouclé 24 heures, le temps de démonter toutes les pièces de ma pauvre voiture, une par une. Au travers d'une petite fenêtre depuis ma cellule, je les voyais s'affairer. Après avoir inspecté l'habitacle et le coffre, ils ont enlevé les sièges, puis ils les ont éventrés. Ils ont arraché les garnitures du toit et des portières. Ils ont même scié les tubes de la banquette arrière. Ils ont démonté les pneus, sans oublier la roue de secours, ouvert les phares, saccagé le tableau de bord. Ensuite, ils se sont attaqués au moteur. Lui, il coulait sur le parking. À un moment, j'ai craint qu'ils mettent le feu au réservoir qu'ils avaient pourtant siphonné. Ils n'ont rien trouvé. Les douaniers ont été incapables ensuite de remonter ma voiture. Ils avaient passé une journée et une nuit entière à y chercher les fameux diamants. Au petit matin, le chef de poste me fit asseoir dans son bureau, mais présenta ses excuses en disant que j'avais certainement été victime de dénonciations calomnieuses. Et il m'enleva les menottes. J'étais libre. Ils étaient tombés dans mon piège. Oui. 2 heures plus tard, je franchissais la frontière au volant de ma toute nouvelle Polski 125 rouge, flambant neuve, qu'ils avaient été obligés de me donner. Oh, ma Polski 125 rouge, elle valait bien plus que tous les diamants que je n'y avais jamais cachés. Ah, ma Polski, tu es mon diamant.